Voix Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Soudan, les leaders du mouvement de contestation ont annoncé ce mardi leur intention d'organiser une grève générale à une date indéterminée suite à l'impasse de leurs négociations avec les militaires au pouvoir sur la transition politique dans le pays. Les discussions entre les deux parties lundi soir n'ont pas abouti à un accord sur la présidence et le taux de représentation entre civils et militaires au sein du futur Conseil souverain chargé de superviser la transition. Et ce, plus d'un mois après le renversement du président Omar al-Bashir. D'où l'appel de l'Association des professionnels soudanais, un acteur clé de l'ALC, l'Alliance pour la liberté et le changement, en faveur d'une grève générale qualifiée de « devoir révolutionnaire ». Mais malgré leurs désaccords, les deux camps ont souligné dans un communiqué commun, après les toutes dernières discussions, leur intention de poursuivre le dialogue pour parvenir à un accord répondant aux aspirations du peuple soudanais. Élections au Malawi, pays d'Afrique australe enclavé entre la Zambie, le Mozambique et la Tanzanie. L'électorat sera aux urnes ce mardi pour un scrutin présidentiel qui s'annonce serré entre le chef de l'État sortant Peter Mutharika, en quête d'un second mandat, et deux sérieux adversaires qui ont fait de la lutte contre la corruption leur thème de prédilection. Au total, 7 candidats sont en lice pour la magistrature suprême, mais le scrutin se joue entre Peter Mutharika, son vice-président Solos Chilima et le chef de l'opposition Lazarus Chakwera, selon les observateurs. Les 6 800 000 électeurs malawites renouvellent aussi leurs députés et les conseillers locaux. République démocratique du Congo maintenant, près de 4 mois après son investiture, le président Félix Tshisekedi a finalement procédé lundi à la nomination de son premier ministre. Sylvestre Ilunga Ilunkamba était jusqu'à sa nomination à la primature directeur général de la Société nationale des chemins de fer. Comment en est-on arrivé à sa sélection? Raïssa Girondin a joint le porte-parole présidentiel Kasongo Mwema Yamba Yamba pour une réponse.
Cette nomination du nouveau Premier ministre qui est attendue depuis plusieurs mois. Et c'est fait donc là maintenant. Il reste juste à voir les tractations qu'ils vont mener pour qu'on mette en place le gouvernement.
Comment le choix s'est porté sur Sylvestre Ilunga Ilunkamba?
La décision ne vient pas totalement du président de la République parce que c'est une coalition qui s'est mise en place pour gérer le pays. Le Front commun pour le Congo, FCC, et le CASH, le Cap pour le changement, qui réunit l'UNC de M. Vital Kamerhe et l'UDPS de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils se sont mis d'accord pour pouvoir travailler ensemble. Mais il y a plus de députés qui appartiennent au FCC. Donc, c'est le FCC qui a proposé des noms au président Tshisekedi pour qu'il puisse en choisir un et le nommer comme Premier ministre. Il y a des conditions que le président avait posées au FCC. Je crois que vous avez appris. Il y avait des noms qui avaient déjà été proposés au chef de l'État et que, fermement, il a dit « Je suis désolé, ça, je ne prends pas ». Et donc là, quand on a proposé le professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, c'est vrai que c'est un membre du PPRD, c'est pas un classique, hein, mais c'est quelqu'un qui est modéré, qui est dans le consensuel, qui a une grosse expérience en matière de gestion de la chose publique. Il a été plusieurs fois, 4 fois je crois, vice-ministre. Il a été 2 fois ministre et pas dans n'importe quel ministère. Il a été ministre du plan, il a été ministre des finances. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez discret, que l'on ne connaît pas beaucoup dans le microcosme politique congolais, mais c'est quelqu'un qui a véritablement fait ses preuves.
Le Premier ministre Ilunga a annoncé la formation rapide de son gouvernement et en même temps, Lubumbashi a accueilli en grande pompe l'opposant Moïse Katumbi qui est revenu avec un message d'apaisement et je cite, il s'est dit prêt à condamner ce qu'il faut condamner mais surtout à féliciter certaines actions du président Tshisekedi. Est-ce que vous voyez la possibilité d'un gouvernement inclusif?
À l'étape où en sont les choses et connaissant quand même le peuple congolais, il ne faut rien verrouiller. Et moi, je crois honnêtement, depuis que je fréquente le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Mais je dis simplement, puisque le même Moïse Katumbi Chapwe a déclaré qu'il sera de l'opposition républicaine, donc il est à l'écoute. S'il y a des ouvertures qui permettent de faire quelque chose ensemble, bon, je pense que le président Félix Tshisekedi sera preneur. Mais pour l'instant, je crois qu'il va d'abord essayer de se mettre d'accord avec sa coalition pour trouver un gouvernement. Maintenant, bon, si plus tard il y a des experts, des gens comme ça qui mériteraient, de son point de vue, d'être associés à la gestion de la chose publique, je ne pense pas qu'il hésiterait une seconde.
Kasongo Mouema Yamba Yamba, porte-parole du président Félix Tshisekedi, joint à Kinshasa par Raïssa Girondin.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, au Bénin, le président Patrice Talon s'est adressé hier soir à ses concitoyens. Dans un message diffusé sur la télévision nationale, le chef de l'État est revenu sur les violences post-électorales. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Patrice Talon a invité les Béninois à tirer les leçons des manifestations post-électorales. Tout ce qui nous est arrivé doit être utilement mis au crédit d'une crise de croissance de notre processus démocratique, a-t-il déclaré. Il dit regretter les victimes des 2 jours de manifestation à Cotonou.
Cela est très regrettable. Davantage parce que nous avons dû perdre des vies humaines. Ma tristesse est immense.
Patrice Talon est aussi revenu sur le système partisan qui, selon lui, reste une réforme délicate mais nécessaire. Il a invité les 83 nouveaux députés à se mettre résolument au service du Bénin tout entier pour le vote de lois utiles.
Je l'invite tout particulièrement à rassurer l'opposition politique en procédant à la relecture responsable de la charte des partis et du code électoral pour les actualiser en tenant compte des réalités de l'évolution de notre pays.
Le chef de l'État a regretté l'assassinat de Fiacre Gbedji, l'un des guides du pacte de la Pendjari, l'enlèvement des 2 touristes français avant d'appeler le peuple béninois à accompagner les réformes engagées pour révéler le Bénin aux yeux du monde pour amorcer le développement tant attendu. De Cotonou, Ginette Fleur Dandé pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le ministre du Tourisme a lancé lundi le programme Sublime Côte d'Ivoire, un projet ambitieux d'un coût de 3 200 milliards de francs CFA qui vise à développer le tourisme étranger. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
Notre ambition, c'est de devenir d'ici à 2025 la 5e destination touristique africaine et peser 12% du PIB, soit environ 300 milliards de francs CFA, a déclaré le ministre ivoirien du tourisme, Siandou Fofana. Il indique aussi que le projet permettra de créer 365 000 emplois contre 270 000 générés en 2016. Le ministre Fofana a notamment mis l'accent sur la ville de San Pedro, entourée de belles plages. Il estime que le 2e port du pays était stratégique pour le développement touristique en Côte d'Ivoire. Pour lui, ce qu'il y a à faire, c'est de construire et réhabiliter l'axe San Pedro-Abidjan par la côtière à partir de cette année 2019, agrandir l'aérogare de San Pedro, construire un chemin de fer pour y acheminer toute la production minière de la zone ouest. Sur les 3,200 milliards de dollars à mobiliser, 1,500 milliards seront concentrés à l'État ivoirien et le reste par des investisseurs privés. Plus de 480 milliards de francs CFA seront consacrés à la région de San Pedro pour la réalisation des infrastructures hôtelières, a précisé le ministre ivoirien.
Actualité hors d'Afrique pour terminer. Moyen-Orient, les enquêteurs de l'ONU travaillant sur les exactions imputées au groupe État islamique contre les Yazidis ont exhumé 12 charniers en Irak. Ils disent réunir des témoignages pouvant être utilisés devant la justice. Yacouba Ouedraogo.
Dans le rapport, le chef de la commission d'enquête onusienne, Karim Assad Ahmad Khan, indique que les investigations de ces 48 enquêteurs sont focalisées sur un massacre de Yazidis en 2014. À cela s'ajoutent des crimes à Mossoul entre 2014 et 2016 et la mort de recrues militaires irakiennes dans la région de Tikrit en juin 2014. Un premier charnier avait été exhumé par la commission à la mi-mars à Kodjo, localité yazidi du nord de l'Irak. Les avancées sont plus lentes que prévues, note Karim Assad Ahmad Khan dans le rapport remis au Conseil de sécurité. Il souligne la nécessité d'établir des procédures claires et efficaces pour utiliser les preuves lors de poursuites judiciaires, ajoutant qu'un programme de protection des témoins a été mis en place. Le Conseil de sécurité a créé en 2017 une équipe d'enquêteurs pour s'assurer que le groupe État islamique réponde d'éventuels crimes de guerre en Irak et en Syrie. Ce dossier est également porté par le prix Nobel de la paix yazidi Nadia Mourad et l'avocate libano-britannique Amal Clooney. Selon l'ONU, le massacre des yazidis, une minorité kurdophone, pourrait constituer un génocide. Le groupe État islamique, vaincu en Irak fin 2017, a laissé derrière lui plus de 200 charniers qui pourraient renfermer jusqu'à 12 000 corps, selon l'ONU.
Bras de fer États-Unis, Iran, les hauts responsables du Pentagone et de l'état-major américain informeront ce mardi à huis clos tous les parlementaires du Congrès américain sur les tensions entre Washington et Téhéran. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.